Je crois pouvoir dire historiquement ceci. La France n'est pas schismatique, elle est révolutionnaire.
Nous pouvons changer les conditions de la jeunesse et les conditions de la vie.
Montez, loin de terre !
Les vrais artistes ne méprisent rien. Ils s'obligent à comprendre au lieu de juger.
Ashishokiro, poète armé de stylo, réserve de créativité, hangar, silo.
Rap, littérature, révolution.
Bonjour, bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute du 102.2 de la plus rebelle des radios, Radio Canu. Et de 13 à 14, c'est l'émission Montaigne was a Thug, rap, littérature et révolution. Avec aujourd'hui un invité, Baptiste Milando. Alors Baptiste, vous êtes enseignant en économie et philosophie politique à Lyon. Titulaire d'un doc de droit, d'une licence d'administration publique, d'un BTS communication des entreprises, d'une maîtrise de sciences politiques, d'une licence d'anthropologie et d'un master de philo. Donc ce qui fait de vous l'invité le plus diplômé de l'histoire de Montaigne was a Thug, voire de l'histoire de Radio Canu. Donc big up Baptiste Milando, bonjour.
Bonjour.
Et voilà, très content de vous recevoir aujourd'hui.
J'ai aussi un brevet de belote, je sais pas si ça...
c'était pas dans votre biographie officielle, on pourra l'ajouter. Et avec nous également le chroniqueur philosophe Thug, Albert Tabu, qui est là. Salut Albert.
Bonjour à tous.
Alors, Baptiste Milando, vous êtes l'auteur d'ouvrages tels que « Ne pas perdre sa vie à la gagner pour un revenu de citoyenneté », dont il existe deux éditions. Alors, si j'ai bien compris, la première, c'est chez Expression Directe, la deuxième aux éditions du Croquant. Ouais. Et de notre livre, entre autres, « Des caddies et des hommes, consommation citoyenne contre société de consommation chez La Dispute ». Alors là aussi, on big up le blast du bouquin, parce que en grand fan de Steinbeck à Montaigne was a Thug, on respecte le nom. Donc, au vu des noms de vos livres, Baptiste Milando, on peut déjà un peu se douter de quoi on va parler aujourd'hui. Enfin, on va partir d'un point assez précis, un peu de votre pensée. Le revenu inconditionnel, sans grande surprise. Et qu'est-ce que c'est que ce revenu inconditionnel pour vous?
Alors qu'est-ce que c'est? Alors il y a différentes définitions qu'on peut donner, vu qu'il y a différents courants qui vont défendre un revenu inconditionnel.
Mais la vôtre. Donc
le point sur lequel tout le monde s'accorde, c'est un revenu versé à tout le monde sans condition et sans contrepartie tout au long de la vie. Donc ça, c'est les premiers critères sur lesquels tout le monde s'accorde, enfin tous ceux qui parlent de revenu inconditionnel, revenu de base, revenu d'existence, allocation universelle, etc. Tout le monde s'accorde là-dessus. Après, il y a des divergences, notamment sur le montant de ce revenu et l'impact que ça peut avoir sur la protection sociale, sur le droit du travail et sur la société dans son ensemble. Donc du coup, moi, ma position, qui est une position de gauche et décroissante, c'est le revenu doit être suffisant pour échapper à la pauvreté, suffisant pour échapper à l'exclusion sociale et suffisant pour échapper à l'exploitation. Donc du coup, les trois critères que je retiens, c'est le seuil de pauvreté, au moins égal au seuil de pauvreté. Aujourd'hui en France, c'est 1000 euros pour une personne seule, 1000 euros par mois. Suffisant pour échapper à l'exclusion sociale, c'est suffisant pour accéder aux biens et services essentiels, entendus comme biens et services essentiels à la participation active à la société. Et puis suffisant pour échapper à l'exploitation, ça doit être suffisant pour se passer durablement d'emploi. Donc ça, c'est les trois critères que j'utilise pour déterminer le caractère suffisant ou non des différentes propositions. Et puis l'impact sur la société, le droit du travail, la protection sociale, ma position, c'est il doit y avoir aucun recul. Donc en termes de protection sociale, on conserve toutes les prestations à l'exception des prestations auxquelles le revenu...
C'est-à-dire la sécu par exemple.
C'est-à-dire la sécu, bien sûr, tout ce qui est, alors déjà tout le système assurantiel, je le conserve. Donc assurance maladie, assurance chômage, assurance retraite, je conserve, et je supprime uniquement les prestations non contributives auxquelles le revenu inconditionnel se substitue parfaitement et avantageusement. Donc ça veut dire que le montant du revenu inconditionnel est supérieur aux prestations qu'ils ont supprimées.
Alloc, RSA,
choses
comme ça.
RSA, bien sûr, je supprime parce que le RSA est pas une bonne prestation. Et pas une prestation juste, parce que ça suppose un flicage des bénéficiaires, le montant est bien trop faible, etc. Donc je supprime le RSA, je le remplace par un revenu inconditionnel suffisant. Les allocations familiales, même chose, je les supprime, puisque le revenu inconditionnel est versé dès la naissance. Donc voilà, c'est ce type de prestation qu'on peut supprimer.
Un enfant touche 1000 euros dès sa naissance?
Alors pas 1000 euros, pas 1000 euros, parce que on part du principe que, en toute logique, les enfants vivent dans un foyer avec des adultes, ça permet de mutualiser certains coûts, et donc du coup, les montants qui sont proposés pour les enfants sont plus faibles. Donc moi, je propose 250 ou 300 euros par enfant.
C'est un bel argent de poche, quoi.
Ouais, alors sachant qu'évidemment, c'est pas versé aux enfants pour qu'ils puissent acheter 300 euros de bonbons par mois, et c'est versé aux parents pour qu'ils puissent répondre aux besoins de leurs enfants pour partie au moins. Après, on peut imaginer dans le détail, se dire une partie sera bloquée, libérée à la majorité pour pouvoir faire des grands projets, etc.
Donc, ce qui est intéressant peut-être dans votre proposition, c'est que, à la différence du RSA, vous l'avez dit, le RSA, ça suppose un flicage. Là, on considère que n'importe qui dans la société est un membre actif de la société, qu'il travaille, hein, c'est votre définition du travail, peut-être vous allez revenir dessus, et donc ça change radicalement les choses en fait.
Ouais, c'est-à-dire que dans le RSA, on est dans une logique assistentielle. Donc on part du principe que certains ne contribuent pas, mais parce qu'on est particulièrement généreux, on va accepter de leur verser un revenu très faible, trop faible, volontairement faible, volontairement insuffisant, parce que bon, 400 et quelques euros ou 500 euros, suivant la manière dont on le calcule, c'est bien trop faible, ça ne suffit pas pour vivre convenablement. Et en plus, ça va être soumis à conditions et à contrepartie, donc conditions de ressources, ce qui fait qu'on va devoir fliquer les gens. Est-ce que vous vivez en concubinage? Est-ce que vous n'êtes pas en train de nous masquer un concubinage? Ce genre de choses. Et puis en plus, il y a des contreparties, donc recherche active d'emploi, démarche d'insertion, et pourquoi pas, vu que c'est proposé de plus en plus par différentes personnes, notamment à droite, contrepartie de réalisation d'un travail d'intérêt général, ou ce genre de choses. Donc là, dans le cadre du revenu inconditionnel, non, surtout pas, c'est pas dans une logique d'assistance qu'on met en place. C'est pour reconnaître le travail de tous. Donc en gros, inutile de demander une contrepartie. En fait, le revenu inconditionnel est déjà la contrepartie d'un travail préalable de tous.
Donc voilà, c'est ça qui a quand même peut-être un débat. Est-ce que qui, alors vous avez pris souvent, j'ai vu l'exemple du joueur de belote qui crée du lien social, si j'ai bien compris, donc contribue d'une certaine manière à la production de valeur dans une société. Est-ce que, alors voilà, premier point, est-ce que quelqu'un qui va créer du lien social, ou je sais pas ce que crée un joueur de belote, c'est de même nature que quelqu'un qui va créer, je sais pas, qui va planter des carottes, récolter une carotte et les manger. Est-ce qu'on peut faire une équivalence comme ça, puisque de toute manière, selon votre logique, le joueur de belote va avoir droit à une rémunération comme a le droit le planteur de carottes?
Alors il y a deux choses. Le planteur de carottes, s'il fait ça dans son jardin, il n'a pas droit à une rémunération.
Oui, qu'il les vend, exact. Ouais.
S'il les vend, oui, ça c'est autre chose. En fait, la différence, c'est le passage de la valeur d'usage à la valeur économique. Le passage de la valeur d'usage à la valeur économique, ça dépend d'une convention qui est en vigueur dans la société. Donc aujourd'hui, on considère que pour passer la valeur d'usage, enfin pour transformer la valeur d'usage en valeur économique, donc pour reconnaître une valeur économique à la valeur d'usage, il faut que ça passe par le marché, ou il faut que ce soit sanctionné d'une manière ou d'une autre par des pouvoirs publics. Moi, ma position, c'est de dire reconnaissons une valeur économique à l'ensemble des valeurs d'usage qui sont produites par l'homme, par les membres de la société. Donc aujourd'hui, on a une convention qui est discriminante pour tous ceux qui n'ont pas d'emploi. Donc on va considérer que ceux qui n'ont pas d'emploi, qui font une activité hors de l'emploi, ne produisent pas, ne travaillent pas, ne produisent pas de valeur économique. Et ça me semble dommage, parce que c'est ce qui permet d'exclure une partie de la société. Donc moi je dis, reconnaissons que tout le monde travaille, que la valeur d'usage qui est produite par les joueurs de belote ou celui qui prend des carottes dans son jardin, ben reconnaissons que cette valeur d'usage, cette valeur d'usage comme une valeur économique.
Ah, mais sur quoi je voulais insister, c'est que la carotte et le lien social, c'est pas de même nature finalement. Et est-ce qu'on va pouvoir réussir à transformer tous les liens d'amitié, je sais pas, etc., en monnaie en fait,
ouais,
en PIB?
Alors, ma position, c'est que il s'agit pas de rechercher une équivalence stricte entre la valeur qui est produite et la valeur économique qui va être reconnue. Je pense que ça rentre dans le champ de l'inestimable, donc je peux pas mettre un prix sur l'amitié, je peux pas mettre un prix sur le lien social que je vais créer avec en jouant à la belote, etc. Par contre, je sais que tout ça, ça a un coût. C'est-à-dire que si je veux continuer à jouer à la belote, si je veux continuer à créer du lien social, etc., il va falloir que je continue à manger, à me loger, etc. Donc du coup, je propose une monétisation à hauteur des coûts. Donc donner les moyens à tout le monde de poursuivre sa contribution à la société. Ouais. Donc aujourd'hui, on n'a pas cette possibilité-là. Si on veut être bénévole, il faut avoir une source de revenus d'une manière ou d'une autre par ailleurs. Moi, je dis, donnons les moyens à tout le monde d'être bénévole.
Est-ce que ça ne remet pas en cause la question des 1000 euros? Parce que du coup, si j'ai bien compris, je suis joueur de carottes... Non, pas...
de belote.
De belote. ça me coûte 100 euros par mois de manger, de m'alimenter, de me loger. Bon, je sais pas dans quel cas, mais imaginons 100 euros par mois. Pour continuer à avoir une seule activité qui est la belote, disons. Enfin, je sais pas si c'est possible d'avoir qu'une seule activité, mais. Qui est la belote. On n'est plus à 1000 euros par là, par mois ou quoi, là. Il y a, on est plus, c'est, on sort du fait de donner la même chose à tout le monde si on, si on rémunère les gens en fonction de ce qu'ils coûtent.
Non, alors bah, du coup, en se disant, il faut que tout le monde ait accès à un niveau de vie suffisant pour pouvoir accéder aux biens et services essentiels. Donc en gros, le coût, c'est ça, c'est l'accès aux biens et services essentiels.
Il n'y a pas d'évaluation du coût, en fait.
Alors ça, il peut y avoir une baisse du coût si on transforme la société et si on fait en sorte qu'on puisse accéder de plus en plus à des biens et services gratuits. À ce moment-là, on peut faire baisser le montant du revenu inconditionnel parce que le coût change. Dans une société de marché comme la nôtre, le coût est particulièrement élevé. Dans une société qui met en place la gratuité quasi généralisée, bah, le coût est beaucoup plus faible.
Et si mon activité voilà, gratuite, enfin voilà, mon activité autre que la belote, c'est le ski nautique.
Ouais.
Donc il coûte extrêmement cher.
Ouais.
Personne ne peut financer mon activité avec 1000 euros par mois, je ne financerai pas mon activité de ski nautique.
Non. Alors c'est pour ça que du coup, moi j'imagine un revenu inconditionnel qui peut être combiné à d'autres sources de revenus. Notamment, on peut avoir un salaire. Donc si j'ai un revenu inconditionnel, ça ne m'empêche pas d'avoir un emploi à côté qui va me permettre de compléter mon revenu. Donc si effectivement j'ai des passe-temps, des loisirs, des activités qui sont plus coûteuses, plus onéreuses, eh ben j'ai la possibilité de d'avoir un emploi en plus et de compléter ce revenu.
Ah, mais ça veut dire qu'il y a une évaluation finalement qui est différente en fonction de le type d'activité qu'on fait. Par exemple, on considère que celui qui fait du ski nautique n'a pas le droit de ne rien faire. Il est obligé de travailler, d'avoir une autre source de revenus pour faire du ski nautique. Alors que celui qui fait juste de la belote, lui, il a le droit d'avoir aucune activité autre que, voilà, aucune activité rémunératrice d'autre
alors,
part.
Deux choses. D'une part, celui qui fait du ski nautique n'a pas le droit de ne rien faire. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur le côté de ne rien faire. Dans mon optique, personne
oui,
ne fait rien.
Oui, c'est vrai que c'est
personne ne fait rien.
C'est un vocabulaire dont tu as du mal à se débarrasser quand même.
Donc,
bien ancré.
Il a le
désolé.
Droit de faire ce qu'il a envie de faire. Après, est-ce qu'il en a les moyens? Pas forcément. Donc, si j'adore, je sais pas, le ski nautique ou d'autres activités particulièrement onéreuses, bah, je n'aurai pas forcément la possibilité effective de le faire. Par contre, j'aurai la possibilité d'échapper à la pauvreté, d'échapper à l'exclusion, d'échapper à l'exploitation, malgré tout. Donc, évidemment, c'est pas une licence offerte à tous pour faire l'intégralité des activités, mais une possibilité de participer effectivement à la société, d'une manière ou d'une autre.
D'accord. Ok. Alors, on va peut-être revenir sur votre définition du travail.
Ouais.
J'ai cru comprendre en vous écoutant que est considéré comme travail n'importe quelle activité utile à la société et est utile ce qui n'est pas inutile.
Non. Est utile ce qui n'est pas nuisible.
Ce qui n'est pas nuisible, pardon. Exact.
Ah, c'est là qu'il y a débat.
Oui, mais c'est sur ce mot de nuisible que je voulais revenir parce que par exemple, je travaille dans une centrale nucléaire.
Ouais.
Est-ce que je suis pas nuisible pour la société?
Alors, le critère que j'utilise moi pour déterminer le nuisible, parce que je suis pas encore dictateur, et je le serai sans doute jamais, c'est le critère de la loi. Donc, je vois ce que la collectivité, alors à travers ses représentants, on peut discuter le caractère représentatif ou pas, hein, mais la collectivité à travers ses représentants définit certaines activités comme étant nuisibles, donc illégales.
D'accord.
Donc c'est ça le critère que je retiens. Sachant que immédiatement après, j'introduis un bémol, donc je me dis, je suis favorable par ailleurs à la désobéissance civile, donc je me dis, il peut être utile d'aller à l'encontre de la loi,
dans
un contexte particulier, donc qui relève de la désobéissance civile. Mais hors de ce contexte, je me dis, la loi est un bon critère pour définir le nuisible. Et à contrario, je dis, donc tout ce qui n'entre pas sous le coup de la loi devient utile, à condition que des personnes aient jugé elles-mêmes utiles de les entreprendre. Donc il y a un critère positif qui est individuel, alors peut-être que je reviendrai après sur le bémol qu'on peut apporter à ce côté individuel, donc critère positif individuel et critère collectif négatif.
D'accord. Votre redéfinition du travail et donc de l'activité, je me dis quand même, elle est assez folle, parce qu'elle elle est très belle, elle est au top, mais elle y va fort, quoi, parce que on prend... un peu à rebours, je sais pas, l'anthropologie libérale qui considère que l'homme est un consommateur avant d'être un producteur. On dit exactement l'inverse. On dit tous les hommes sont des producteurs, donc tous les hommes travaillent. C'est ce que vous dites.
Ouais.
Et alors je me dis, s'il prend vraiment le mal à la racine, quoi, s'il renverse tout ça, pourquoi il va pas plus loin? Pourquoi on s'arrête à 1000 euros par jour? Pourquoi on n'a pas une socialisation du travail? Pourquoi, comme on peut avoir chez Bernard Friot ou des choses comme ça?
Ouais, alors ma position par rapport au salaire à vie, à la proposition du réseau salariat, on est d'accord sur une bonne partie de la proposition. Le fait qu'on va reconnaître à tout le monde le statut de contributeur, eux ils vont parler de statut de producteur, mais en gros ça revient au même, donc tout le monde contribue d'une manière ou d'une autre. Après, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui va permettre de justifier les inégalités de rémunération? Et dans le réseau salariat, dans la proposition du salaire à vie, ce qui va justifier les inégalités de rémunération, c'est le potentiel productif de chacun. Donc à travers la qualification, donc qui va être reconnu par des collectifs qui donc valident le niveau de qualification des personnes, à travers la qualification, on va évaluer le potentiel productif de chacun, indépendamment de l'activité qui est effectivement réalisée. Et donc c'est ça qui va permettre de dire un tel mérite plus que tel autre. Donc en se calquant à peu près sur le système de la fonction publique aujourd'hui, où il y a différentes catégories, différents grades, qui viennent reconnaître le potentiel productif de chacun, et donc certains mériteront plus que d'autres, suivant ce principe. Et moi, je ne suis pas convaincu que ce soit juste. Je ne suis pas convaincu que un fonctionnaire aujourd'hui de catégorie A mérite de gagner plus qu'un fonctionnaire de catégorie B. Je dis, ça dépend du travail qui est effectivement réalisé, et certaines tâches sont plus pénibles que d'autres et méritent davantage de rémunération de mon point de vue. En gros, le seul critère que je considère comme juste pour dire un tel mérite plus que tel autre, c'est la pénibilité de la tâche réalisée.
Oui, donc en fait, vous proposez ça, j'ai pas encore... Vous proposez un autre... Parce que moi, ce que j'ai compris pour l'instant, c'est qu'avec votre salaire inconditionnel, tout le monde a 1000 euros, mais le travail capitaliste, le travail tel qu'il existe aujourd'hui, est maintenu. Et on peut y participer... pour augmenter son niveau de revenu.
Ouais.
Mais donc là aussi, on repose sur les mêmes problématiques, parce que le travail capitaliste est plus ou moins évalué en fonction de notre productivité, ou de notre capacité à produire, ou de...
Oui, alors, sachant que la productivité, c'est aussi une convention. Il n'y a rien de mathématique qui permet de calculer la productivité, ça va dépendre de l'importance qu'on va accorder à telle ou telle profession. Mmh. Alors, je conserve l'emploi.
La pénibilité, c'est pareil finalement, c'est un
peu
aussi...
Complètement, mais ça me semble être plus juste que la productivité.
D'accord.
Je conserve l'emploi, et donc c'est la principale critique que peut m'adresser le réseau salariat. Je conserve l'emploi, je conserve le marché du travail, parce que c'est la seule manière que je vois pour tenir compte de la pénibilité dans la rémunération. Donc la qualification ne permet pas, à mon sens, suffisamment de tenir compte de la pénibilité. Donc je conserve l'emploi.
Il pourrait y avoir d'autres moyens, non, quand même,
J'en vois pas d'autres, mais si vous en voyez d'autres, je suis preneur. J'en vois pas d'autres.
J'en ai pas sous la main, mais...
Donc du coup, je me rabats sur le marché du travail avec l'idée derrière, le raisonnement, que si je donne 1000 euros à tout le monde, enfin si tout le monde a droit à 1000 euros du fait du revenu inconditionnel, il y a de fortes chances pour que certains emplois particulièrement pénibles soient désertés. Et si on veut retrouver des gens pour réaliser ces tâches pénibles, il faudra les payer suffisamment. Et donc du coup, on a une inversion de l'échelle des salaires aujourd'hui, on a des boulots pénibles qui sont pas très très bien payés, et on a des boulots gratifiants qui sont plutôt bien payés, très bien payés. Et donc là, ce serait l'inverse, ce serait dire plus le boulot est pénible, mieux il doit être payé. Donc c'est sur cette logique marchande que je m'appuie pour revaloriser les tâches pénibles, en dernière instance. Après, il y a d'autres manières de traiter cette question, mais en dernière instance, c'est là-dessus. Donc je conserve l'emploi, par contre, ça ne veut pas dire que je conserve le système capitaliste. Donc moi, j'imagine un emploi qui se développerait dans des structures coopératives. Donc coopératives, avec principe de propriété d'usage, avec lucrativité limitée, etc. Donc on peut garder l'emploi, on peut garder le marché du travail, sans forcément passer par le capitalisme. La fonction publique, les services publics, ça peut relever aussi de l'emploi, sans que ça relève forcément des institutions capitalistes.
C'est-à-dire de l'emploi.
C'est-à-dire que c'est on peut imaginer des travaux qui sont rémunérés suivant une logique marchande, ou suivant une autre logique que la logique marchande, dans le cas des services publics, sans passer par le capitalisme, sans qu'il y ait des propriétaires du capital qui soient différents des usagers des outils de travail, etc.
Ok, je pense qu'on a bien saisi votre position du coup sur ce point. On va se faire une petite pause musicale pour se reposer un peu les neurones, et on va repartir après. Alors la petite pause musicale, évidemment à base de rap aujourd'hui, comme d'hab, c'est Fab, Quand je serai grand.
Ouais, c'est ça. 9-8. Pour ceux qui partent et ceux qui partent pas. Et surtout pour ceux qui partent pas. Ouais, c'est ça. Écoute ça.
Pour commencer,
ses pensées pour se lever de bonheur. Qui bosse dur, imposture d'une vie sans trop de saveur. Qui bosse 11 mois pour partir comme papa, un mois en vacances, qu'économise sinon ça passe pas. Ceux qui passent leur week-end dans les parcs et attendent leurs vacances comme les Français que les alliés débarquent. Quand j'étais gosse, j'avais de l'appréhension, ouais, de l'ambition. Je disais par amour, pas par prétention. Quand je serai grand, je veux habiter à la mer avec mon père et ma mère, marcher dans le sable puis prendre le RER. J'avais 10 ans, c'était en 81, on est en 98 frérot, j'ai pas changé de numéro. Quand je serai grand, je veux habiter à la mer avec, ouais, mon père et ma mère, marcher, ouais, dans le sable puis prendre le RER. Ouais. C'est putain de tour, je veux plus les voir plus tard.
Pire que je veux
vivre autre part. J'ai même une idée si tu veux savoir. Quand je serai grand, je veux habiter à la mer avec, ouais, mon père et ma mère, marcher, ouais, dans le sable puis prendre le RER. Ouais. C'est putain de tour, je veux plus les voir plus tard.
Pire que
je veux vivre autre part. J'ai même une idée si tu veux savoir. J'ai pas changé de numéro de département, seulement d'appartement. Grandi dans des quartiers appartenant à la majorité qu'une minorité possède. Ça m'obsède comme les photos qui montrent au Club Med. T'as vu le prix que ça coûte un billet d'avion? J'ai découvert la Martinique à 26 ans, j'avais pas l'air con. Pourtant là-bas c'était chez moi, moi aussi j'ai dû rester ici. L'été dans le train tu peux rester assis. C'est l'avantage de pas avoir de pognon au mois d'août à Paris, à Paris, à Paris. Combien tu paries? Pendant que tu bronzes, y'a des gosses qui jouent au foot en bas de chez eux et ils t'emmerdent, j'ai grandi comme eux. Quand je serai grand, je veux habiter à la mer avec, ouais, mon père et ma mère, marcher, ouais, dans le sable pour prendre le RER. Uh-huh. C'est putain de tour, je veux plus les voir plus tard.
Pire que
je veux vivre autre part. J'ai même une idée si tu veux savoir. Quand je serai grand, je veux habiter à la mer avec, ouais, mon père et ma mère, marcher, ouais, dans le sable pour prendre le RER. Uh-huh. C'est putain de tour, je veux plus les voir plus tard.
Pire que
je veux vivre autre part. J'ai même une idée si tu veux savoir. Assis sur le ciment, torse nu, j'appelle un pote à la fenêtre, une bouteille d'eau fraîche, il m'a descendu. Cette année, il reste ici. L'était au bled l'année dernière et comme son père est le voisin de mon père, c'est pas un milliardaire. Alors on se promène tous les deux, on rencontre les autres. À l'époque y'avait pas trop de tox dans les rues, maintenant ils poussent comme des œufs à Pâques. Les gosses mettent le paquet, démarrent au quart de tour et foutent des taquets. Essaye d'attaquer, tu vas voir ce que c'est que le stress quand la vie te laisse de côté. Tu jalouses, tu blesses, tu testes, tu détestes, ça en pèse dans la rue. L'été y'a des flics, t'es pas ami, ami. Et la réalité c'est qu'on a tous à peu près vécu la même, fait les mêmes colonies, les mêmes jeux de rôle avec les mêmes thèmes. Je m'arrête ici, dédicace aux petits en bas de chez moi, en bas de chez toi, à ceux qui partent et ceux qui partent pas. Quand je serai grand, je veux habiter à la mer avec, ouais, mon père et ma mère, marcher, ouais, dans le sable pour prendre le RER. Uh-huh. C'est putain de tour, je veux plus les voir plus tard.
Pire que je veux
vivre autre part. J'ai même une idée si tu veux savoir. Quand je serai grand, je veux habiter à la mer avec, ouais, mon père et ma mère, marcher, ouais, dans le sable pour prendre le RER. Uh-huh. C'est putain de tour, je veux plus les voir plus tard.
Pire que
je veux vivre autre part. J'ai même une idée si tu veux savoir.
Savoir, 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 savoir.
Yeah, 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 vous êtes toujours à l'écoute de la plus rebelle des radios, Radio Canu, le 102.2, Montaigne Oise Thug, rap, littérature et révolution, avec aujourd'hui une émission philosophique, économique, politique, on sait pas trop, mais intéressante en tout cas, en compagnie de Baptiste Milondo et du chroniqueur beau gosse Albert Tabu qui est là. Alors, on a parlé un peu, Baptiste Milondo nous a exposé un peu, voilà, sa théorie, c'est pas que seulement la sienne, mais sa vision du revenu inconditionnel. Et on a bien remarqué qu'on était ici dans une émission plutôt à gauche parce que j'ai pas posé toutes les questions que les relous de droite auraient posées direct. Non, d'accord, genre,
vrai, ouais.
Et alors, est-ce que ça va pas encourager la feignantise?
Et voilà.
Bon, donc j'ai montré patte blanche et maintenant je peux m'y mettre aux questions de relou.
C'est parti.
Donc, non, mais alors, j'ai quand même l'impression que le présupposé de toute cette théorie, ce dont on a parlé avant, c'est aujourd'hui en France, peut-être en Occident de manière plus générale, en Europe de l'Ouest, je sais pas, on a trop produit, on a assez, quoi. Ouais. On a assez. On a plus besoin d'encourager la productivité, la production. Et c'est pour ça que on va pouvoir donner 1000 euros à tout le monde et entre autres et voilà et pouvoir vivre comme ça. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai pas raison?
Alors c'est pas le postulat, mais c'est une hypothèse que je formule moi. Mais en gros, on peut très bien défendre un revenu inconditionnel en se disant on va verser 1000 euros à tout le monde, comme ça tout le monde aura la possibilité de consommer, ça va soutenir la demande et ça va relancer la croissance. On peut très bien se dire ça. Donc on peut se dire le revenu inconditionnel fait partie d'une politique keynésienne de relance de la croissance par la consommation. On pourrait se dire ça. Moi, j'émets une autre hypothèse. Je me dis effectivement... on est dans une société de surconsommation. Une société de surconsommation, c'est une société de surproduction. Et finalement, on est tous obligés de produire trop et de consommer trop. Si on avait la possibilité de choisir, peut-être qu'on ferait le choix de consommer moins et de produire moins. Mais donc de consacrer moins de temps à notre emploi. Après, donc, je me dis, si on met en place un revenu inconditionnel, on laisse la possibilité aux gens d'arbitrer comme ils l'entendent. Et le pari que je fais, c'est si on donne 1000 euros à tout le monde, en donnant la possibilité effective de se passer durablement d'emploi, une partie de la population au moins fera le choix de se passer effectivement d'emploi, de se contenter de 1000 euros et donc de consommer moins. Et donc si effectivement une partie de la population fait ça, on entre en décroissance. Concrètement, ça veut dire qu'on va accepter une baisse de notre consommation et une baisse du PIB, et on va se dire, bah, c'est plutôt tant mieux, parce que ça veut dire augmentation de notre temps libéré, donc libéré de la production et de la consommation, et puis davantage, sans doute, de bien-être, de qualité de vie.
Voilà, moi je suis Laurent Wauquiez, je te dis, si le PIB de la France chute aujourd'hui, c'est la misère. On est là à gratter 3 points de croissance. Et comment on fait? Comment tu aurais dit quoi, Laurent Wauquiez?
Justement, enfin, en fait, tout l'argument des croissancistes, c'est effectivement se dire, on a besoin de croissance pour créer de l'emploi, pour lutter contre les inégalités, pour lutter contre la pauvreté. Moi, ce que je dis, c'est, d'une part, on n'a pas besoin de créer des emplois, parce qu'aujourd'hui, on produit trop, il n'y a pas besoin de créer davantage d'emplois. Aujourd'hui, en fait, toute notre activité économique vise en dernière instance à produire des emplois. Ce qui est absurde. Enfin, l'emploi est devenu un bien économique à part entière. C'est débile. Donc je me dis, arrêtons d'essayer de créer des emplois. Par ailleurs, pour ce qui est des inégalités et de la pauvreté, si on veut lutter contre les inégalités et la pauvreté, il ne faut pas produire toujours plus. Il faut juste mieux partager. Et donc c'est pour ça que je dis, le revenu inconditionnel est une condition nécessaire mais pas suffisante d'une décroissance soutenable. Donc si on veut être sûr qu'une baisse du PIB ne se traduise pas par un appauvrissement d'une partie de la population, il faut être sûr que tout le monde ait un niveau de vie suffisant. Et ce niveau de vie suffisant, moi je l'appelle revenu inconditionnel.
Et imaginons qu'on mette en place le revenu inconditionnel sur un long terme. Est-ce que, à force, le gâteau ne va pas se réduire d'une certaine manière, qu'on ne pourra plus donner 1000 euros à chacun? Si, par exemple, je vous reprends vos chiffres de revenus disponibles, le revenu disponible, par exemple, c'est le revenu qui va rester... après prélèvement des impôts, des cotisations et des différentes prestations sociales. En 2014, il est évalué à 1342 milliards d'euros. Donc, si on distribue à chaque Français, ça fait 1700 euros par mois. Mais ça, c'est si on reste avec un certain taux de croissance, si on reste avec le même PIB.
Un PIB a changé, ouais.
Et oui. Alors comment on fait si le PIB se réduit petit à petit? On n'a plus 1000 euros à force.
Ouais, le gâteau peut se réduire, le gâteau économique peut se réduire, et surtout, ce qui m'intéresse plus, c'est la recette va changer. Donc en fait, si je dis on verse 1000 euros à tout le monde, et qu'une partie de la population décide de réduire son temps d'emploi ou de se passer totalement d'emploi, ça ne veut pas dire que les gens vont arrêter de faire des trucs et des machins. Ils vont continuer à faire des trucs et des machins. Donc je prends souvent mon exemple, si on verse un revenu inconditionnel, moi qui suis enseignant, il y a de fortes chances pour que je limite mes activités d'enseignement rémunérées et que je consacre davantage de temps à des activités d'enseignement ou à d'autres activités que je ferai sur une base bénévole. Si je propose davantage de cours sur une base bénévole, ce que je fais déjà dans le cadre d'une MJC à Lyon, si je propose davantage de cours sur une base bénévole, ça veut dire que des gens qui souhaitent suivre mon cours n'auront pas forcément besoin de payer. En gros, ça veut dire qu'on va étendre le nombre de biens et services qui seront accessibles sans revenus. Et si on étend le nombre de biens et services qui sont accessibles sans revenu, on peut se contenter d'un revenu inconditionnel plus faible. En fait, ce qui était suffisant auparavant, 1000 euros, devient excessif quand davantage de biens et services sont gratuits. En fait, c'est pour ça que je dis qu'il faut changer la recette. Au lieu de passer par des solutions marchandes, on peut passer de plus en plus par des solutions gratuites. Donc sur une logique soit donc de gratuité institutionnalisée, soit de gratuité formelle ou informelle dans le cadre de collectifs. Donc faire en sorte que voilà, on puisse accéder à ces biens et services sur une autre base qu'une base marchande. Et à ce moment-là, donc on peut se contenter de moins. Donc en fait, moi je conçois le revenu inconditionnel comme une mesure transitoire. Je me dis, aujourd'hui, dans une société de marché, il nous faut un revenu inconditionnel élevé. Dans une société qui n'est plus une société de marché, on peut se contenter de moins et c'est tant mieux.
Même on veut se contenter de plus rien du tout finalement. Est-ce que la finalité c'est pas la disparition de la monnaie ou je sais pas.
Alors je pense pas qu'une disparition totale de la monnaie soit souhaitable parce que la monnaie n'a pas qu'une
même
fonction
pas, même
marchande.
Pas souhaitable ou pas, mais est-ce que c'est pas la suite logique de si à force les moyens de produire ne sont plus rémunérés forcément, enfin toujours au même taux, ou si plus personne ne produit de la même manière, ou si on consomme que ce qu'on a besoin, si on est dans la consommation je sais pas directe, la disparition de la monnaie elle apparaît inévitable.
Alors, non, je dirais pas complètement disparition de la monnaie, parce que alors, j'ai du mal à imaginer une société qui se passerait complètement de monnaie, même dans le cadre de l'échange. Mm-hmm. Parce que je me dis, il y a certaines tâches, peut-être qu'on pourra pas les réaliser sur une base parfaitement non monétaire, non marchande.
Par exemple
Je pense que pour certaines tâches pénibles, il restera toujours des tâches résiduelles pour lesquelles on pourra avoir recours à des services marchands. Enfin, toutes les tâches dont on n'a pas pu se passer, toutes les tâches qu'on n'a pas pu mutualiser, partager, etc. Toutes les tâches qu'on n'a pas pu revaloriser socialement. Pour celles-là, il me semble que passer par le marché peut être un moindre mal.
D'accord.
Donc du coup, pour ces tâches-là, donc ça peut être intéressant de conserver le marché. Et puis par ailleurs, la monnaie me semble intéressante. Enfin, la monnaie n'est pas nécessairement liée au marché. La monnaie aussi a une fonction sociale, de création de lien social, de reconnaissance de dette. Enfin, symbolise la dette qui est importante dans une société, parce que c'est ça qui fait qu'on va tous être redevables les uns des autres. C'est ça qui fait qu'on vit en société aussi. Donc la monnaie me semble pertinente au-delà de sa fonction marchande.
Une société aboutie dans le cadre du salaire à vie, ça donne quoi?
Alors du revenu inconditionnel pour ma proposition.
Enfin, j'ai du mal avec ces...
La société aboutie, c'est une société plus sobre, donc qui rompt avec la surconsommation, qui rompt avec la surproduction, et une société moins marchande, donc qui se rend compte que on peut juste s'entraider sans forcément avoir systématiquement besoin de son portefeuille. Donc ça serait ça. Alors ma société idéale, ça ressemble à ça. Qu'on puisse accéder aux biens et services essentiels sans forcément avoir un revenu particulièrement élevé, parce que on a développé d'autres formes de richesses qui sont pas forcément des richesses monétaires.
Moi, j'ai peur qu'en fait, le fait de donner un salaire, enfin, je sais pas si j'ai peur de ça ou quoi, mais on donne un salaire à vie à, enfin, pardon, un revenu inconditionnel à tout le monde. Les tâches les plus, si j'ai bien compris, les tâches les plus pénibles sont plus valorisées. Donc, plus valorisées au niveau de la reconnaissance économique, donc.
Ouais.
Voilà.
Alors c'est pas le seul levier sur les tâches pénibles.
Oui, mais est-ce que l'autre levier c'est pas les robots? parce que moi je me dis, ouais, d'accord, mais si on pousse la logique à bout, les tâches pénibles, pourquoi on se donnerait pas un robot, je sais pas. Ouais. Pour moi la tâche la plus pénible du monde c'est gardien de prison. Des robots gardiens de prison.
Ouais. Oui, alors c'est une tentation qui
c'est une énorme tentation, surtout que j'ai l'impression que sans parler de salaire, de revenus inconditionnels, etc., on y va vers cette robotisation.
Ouais, ouais, complètement. C'est une tentation. C'est pas il y a beaucoup de défenseurs du revenu inconditionnel qui disent oui, les tâches pénibles c'est pas un problème, il y aura des robots, etc. Moi, mon gros souci, c'est que je suis objecteur de croissance.
Voilà.
Et du coup, il y a une question écologique et une question sociale par rapport à ces robots qui me chiffonnent. Donc, alors je reviens après sur la question des robots, mais je me dis sur les tâches pénibles, le premier réflexe qu'on doit avoir c'est la suppression.
Donc suppression des tâches pénibles.
La suppression des tâches pénibles, bien sûr. En gros, la question qu'on doit se poser aujourd'hui,
mais qui fait les tâches pénibles mais nécessaires?
Ah oui, non, mais alors du coup, voilà, la question qui se pose, c'est quoi ce qui est nécessaire en termes de tâches pénibles? Mmh. Donc aujourd'hui, on se pose pas la question. Mmh. Aujourd'hui, de toute façon, on a des gens qui sont contraints de réaliser ces tâches pénibles, donc on se dit même pas, est-ce que c'est vraiment nécessaire, etc.
D'accord.
On le fait parce qu'il y a des gens, en plus, on peut les payer pas cher, parce qu'ils sont pauvres et qu'ils sont prêts à accepter n'importe quelle condition de travail. Donc du coup, en gros, quand on pose la question des tâches pénibles, souvent je décline, hein, je dis... qui fera encore les tâches pénibles si on met en place un revenu inconditionnel? Dans le qui fera encore, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y en a qui font et qui n'ont pas d'autre choix de le faire.
Ouais.
Si on tire un peu le fil, c'est qui acceptera encore de faire les tâches pénibles à notre place? Parce qu'on est content de pouvoir déléguer les tâches pénibles à ceux qui sont prêts à les réaliser pour une misère. Et ça me semble pas satisfaisant comme raisonnement, parce qu'en dernière instance, ça revient à dire heureusement qu'il y a des pauvres aujourd'hui pour réaliser les tâches pénibles à notre place. Ça me semble pas juste. Donc
non,
ça veut dire que, revenu inconditionnel ou pas, il faut prendre à bras-le-corps cette question des tâches pénibles.
D'accord.
Et quel est le premier réflexe qu'on doit avoir? C'est s'en passer autant que possible. La question qu'on doit se poser, en termes de justice, c'est quel est le degré de pénibilité qu'on est en droit d'exiger des autres? Et ben, c'est pas un degré de pénibilité particulièrement élevé. Donc il y a des tas de tâches, et ben, il faut s'en passer. Ça veut dire qu'il faut sans doute réévaluer une partie de notre confort matériel, qui repose largement sur l'exploitation d'autrui. Il y a des choses dont il faut se passer parce que ça ne se fait pas. en termes de justice sociale,
faire
et notamment
des poubelles
globale.
Par les autres, des choses comme ça.
Alors ça c'est donc
par exemple.
Déjà ouais, alors, un exemple c'est un exemple que je prends souvent mais alors, je m'appuie sur une expérience de copains qui vont m'en vouloir des copains qui m'ont dit un jour qu'ils avaient eu recours à un système de livraison de repas en vélo ouais. qui se développe beaucoup en ce moment et ils me disaient ça avec une certaine satisfaction en me disant bah au moins c'est pas un véhicule polluant qui est venu de le livrer ouais, ouais, ils ouais. savent que je suis un peu écolo donc ils étaient assez contents donc moi je tique un peu et ils me disent en plus c'était pas très enfin alors je leur dis quand même vous avez demandé à quelqu'un de pédaler pour vous livrer un
j'aurais pu le faire vous-même quoi c'est ça le premier réflexe ouais. c'est ça le fond de ta pensée c'est
ouais,
ça
ils auraient pu le faire eux-mêmes D'accord. alors deux arguments c'était pas très loin. Le restaurant était pas très loin, donc en gros, ça n'a pas demandé beaucoup d'efforts à la personne qui les a livrés. Et deuxième argument, il pleuvait. Du coup, eux n'avaient pas envie de faire la démarche. Bon, bah, moi je me dis, clairement, ce type de boulot, on peut les supprimer. C'est des tâches qui me semblent assez pénibles. Et chacun a les moyens de se déplacer jusqu'au restaurant pour aller chercher son repas. Voilà. Ça, c'est le type de tâche dont on peut se passer. Je pense par exemple aussi au nucléaire, pour prendre un exemple un peu moins consensuel. Le nucléaire, je pense que ça implique des tas de boulots pénibles et des tas de boulots particulièrement dangereux. Le jour où il faut liquider des centrales nucléaires, eh ben c'est pas simple, il faut trouver des gens qui sont volontaires, etc. Pour Fukushima, par exemple, on est allé récupérer des SDF dans les gares pour traiter ce type de problème, parce que c'est pénible et qu'on trouve que des pauvres pour accepter de faire ça. Si on se dit on n'a pas le droit d'exiger un degré de pénibilité particulièrement élevé, sans doute qu'il faut se passer du nucléaire. Donc, même en mettant de côté la question écolo, la question de la justice sociale nous impose de renoncer au nucléaire. Donc il y a beaucoup d'éléments de notre confort aujourd'hui qui supposent une exploitation, et il faudrait s'en passer. Tous nos appareils électroniques, informatiques, etc. reposent largement sur une bonne partie d'exploitation d'une partie de la planète.
Ah oui, mais alors là, il y a quand même vraiment beaucoup, beaucoup de choses dont il faut se passer. Quoi.
Bien sûr.
D'accord, moi
bien
je pensais juste à... Okay.
Bah, en gros, aujourd'hui, on peut s'acheter des ordinateurs parce que c'est réalisé par des gens qui sont payés une misère. Si on payait correctement les gens qui bossent dans les usines de Foxconn, les ordinateurs seraient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus chers. On aurait sans doute un autre usage de l'informatique. Voilà. Donc c'est ça aussi qu'il faut accepter. Quand je dis qu'il faut se passer de certaines choses, de certaines tâches qui demandent beaucoup de pénibilité, c'est ce type d'arbitrage qu'il faut faire. Après, on peut se dire ces tâches sont nécessaires. Donc si ces tâches sont nécessaires, il faut commencer par les partager. Donc au lieu de déléguer, en se disant bah, c'est les autres qui vont s'en occuper, on s'arrange pour faire soi-même. Le ménage, par exemple. On peut déléguer à une femme de ménage ou à un personnel domestique. On peut aussi le faire soi-même. On y arrive. On est capable. Donc, autant le faire soi-même. Faire soi-même, faire avec les autres ou faire pour les autres dans une logique d'entraide. Donc, déjà, ça, c'est une première, une deuxième étape. Et puis après, au sein de chaque entreprise, je me dis, au lieu d'avoir une division du travail, il faut avoir un partage des tâches. Plutôt que certains aient des tâches gratifiantes, bien payées, etc. et d'autres des tâches ingrates, mal payées. Eh ben, tout le monde fait un peu tout. Et tout le monde est payé pareil. Et c'est plutôt juste.
Ah, sur le papier, c'est quand même assez canon, quoi. Ouais, c'est le truc. Mais le problème, c'est. Ah,
monsieur. Ouais, juste une question. Une question. Donc là, on est un petit peu resté au plan national, mais ça a quand même des conséquences ouais. sur le plan international. Je veux dire, il faut rompre avec les traités européens, il faut rompre avec tout le système économique mondial. Et puis vivre en autarcie comme ça, c'est beau sur le papier, comme on dit, c'est idéal, mais est-ce que c'est possible?
Alors, il n'y a pas forcément de nécessité de rompre. Alors, dans le cadre du revenu inconditionnel, après, par ailleurs, on peut remettre en cause des tas de traités, il n'y a pas de souci, mais le revenu continental n'implique pas nécessairement de rompre avec les traités européens ou avec le commerce international. C'est simplement que ça implique la mise en place d'un commerce plus juste. Donc ça peut supposer.
En vérité, oui. En vérité, ça implique de rompre parce que qui nous laissera imposer un revenu inconditionnel à 1000 euros au sein de l'Union européenne, au sein même du. Est-ce que le FMI ne nous empêchera pas qu'on coupe des bâtons sur la tête?
Mais en vertu de quoi?
Non, mais en vertu de, on sait comment ça fonctionne pour l'instant, en vertu du pouvoir de pression qu'ils ont sur nos dirigeants, par exemple.
Ah oui, alors effectivement, je ne sais pas si les dirigeants aujourd'hui se lancent
même sur
dans
nos dirigeants et même sur nous, parce que si demain il y a un ordi à 10 000 balles pour tout le monde, qui va vouloir faire la révolution, quoi?
Parce que vous nous avez convaincus à nous peut-être, mais est-ce que vous allez arriver à convaincre les dirigeants de ce pays et les dirigeants de tous les pays?
Alors mon ambition. Et plus modeste. Ouais, mon ambition n'est pas de convaincre les dirigeants de tous les pays, ni même les dirigeants de notre pays.
Bien sûr.
Mon ambition, c'est, en parlant de revenus inconditionnels, de soulever tout un tas de questions qu'on se pose jamais. Donc la question des tâches pénibles, on la pose jamais. encore une fois. Au moins, quand on parle de revenu inconditionnel, ça permet de se dire, ah oui, c'est vrai, peut-être que notre niveau de vie, il s'appuie complètement sur l'exploitation d'une bonne partie de la planète et même des gens qui vivent parmi nous. Peut-être qu'aujourd'hui, on se félicite du fait qu'il y ait des pauvres dans notre société parce qu'au moins, ça permet de remplir toutes les fonctions sociales de la pauvreté. Et donc, à savoir, réaliser des tâches pénibles, avoir des gens sur qui taper quand on n'est pas content, etc., etc. Donc, au moins, poser la question du revenu inconditionnel, ça permet de soulever des tas d'autres questions. Et une fois qu'on a ciblé toutes ces questions-là, la question du partage des richesses, la question des tâches pénibles, la question de la définition du travail, la question de la centralité de l'emploi dans nos vies, etc. Une fois qu'on a ciblé tout ça, eh ben on peut trouver plein de micro-solutions pour chacune de ces problématiques. Donc, on n'est pas obligé de mettre en place un revenu inconditionnel.
Mais des micro-solutions à l'échelle aussi micro-locale, je pense même.
Ouais, mais pas forcément. Pas forcément, parce qu'il y a des mesures aussi nationales qui peuvent être prises. Hein, sur
voilà, mais alors là, on revient dans le qui-peuvent, etc. Parce que je vois très bien qu'au moins à 10, on peut se motiver pour...
Déjà, c'est une bonne chose.
Déjà, c'est une bonne chose.
Déjà, si on se pose collectivement ces questions-là, même à une échelle petite,
oui, non, mais
c'est
oui.
une bonne chose.
Non, mais clairement, c'est sûr.
Et après, au-delà, on peut trouver des mesures qui sont pas des mesures aussi, je veux dire, aussi radicales ou de rupture que le revenu inconditionnel, qui permettent de faire des petits pas en avant sur la question du partage des tâches. On peut imaginer du partage des tâches, du partage des richesses. On peut imaginer une augmentation de la progressivité de l'impôt. Ça, alors je sais que c'est pas dans les propositions que préfère le FMI, mais a priori, il y a peu de chances que le FMI vienne taper sur un pays qui conserve un budget équilibré grâce à une augmentation de la progressivité de l'impôt.
À voir.
L'instauration d'un revenu maximum. Par ailleurs, moi je suis pour l'instauration d'un revenu maximum, je le dis aussi, c'est une manière de réduire les inégalités et de faire en sorte que tout le monde ait accès à une part suffisante. Donc il y a des tas de mesures comme ça qu'on peut prendre au niveau national ou à un niveau plus local qui permettent de répondre à toutes les problématiques qui sont soulevées par le revenu inconditionnel. Et je reviens juste sur la question du robot, du coup.
Ah oui, dont on s'est éloigné.
Bah oui. Parce que donc il s'agit pas du tout dans mon optique de régler la question des tâches pénibles par les robots. Enfin, ce serait un cruel échec si on faisait ça. Parce que donc les robots posent un vrai problème écologique. Les robots, il faut les faire tourner et on les fait pas tourner à l'huile de coude, hein, globalement. On les fait tourner avec des ressources fossiles qui sont rares, en cours d'épuisement. Et donc, on peut imaginer que les robots soient un élément de confort accessible pour nous, à une minorité de la population mondiale. On peut pas imaginer que ce confort soit généralisé à l'ensemble de la population mondiale. En termes de justice globale, ça me pose souci. Donc du coup, je préfère ne pas m'appuyer sur le robot. Et de la même manière, s'appuyer sur le robot, c'est écarter la question de qui fabrique ces robots. Et au même titre que les ordinateurs, etc., à l'arrivée, on se retrouve avec une armée de travailleurs qui sont dans des pays pauvres et qui produisent pour nous des robots. Et ça, ça me pose souci aussi. Ça relève de l'exploitation. Donc du coup, je ne m'appuie pas sur les robots. Encore une fois, la première question qu'on a se poser, c'est de quoi est-ce qu'on peut se passer ? Et il y a des tas de choses dont on peut se passer.
Ok, alors on va faire la deuxième petite pause musicale de l'émission avec un son tout nouveau de Kerry James, N'importe quoi il s'appelle.
C'est du n'importe quoi.
N'importe quoi.
Je remonte sur le ring, je suis Kerry Balboa. Non, je suis Mohamed Alix, comme dit Sofiane du 9-3. Pas besoin de pousser pour peser. Le calibre tout c'est quand il fait froid. La rue me murmure, Kerry tulé. Reprends ta ceinture, fais les capitulés. Ce sont des impostures, toute façon tu les connais. Ils sont bons qu'à simuler. Compte sur moi, compte sur le boss. Mais fais pas les nouveaux si tu comptes sur le prof. Je viens de la rue, je n'ai rien à prouver. Depuis plus de 20 ans, je suis fidèle au bloc. Pas une ride, je suis au niveau. On valide, même mes rivaux, mes ennemis finiront au lido. C'est pas aujourd'hui que je tire le rideau. Ah, j'ai la voix du Renoir, car le mort, on dirait que je rappe un canon sur la tempe. Je sais tout faire du conscient, du hardcore. Tu ne trouveras jamais un MC de ma trompe. J'ai ton chien, une prod de fini, fini. Prod de fini, j'ai ton chien, une prod de fini, fini. Prod de fini, j'ai ton chien, une prod de fini, fini. Prod de fini, allons, allons.
C'est n'importe quoi.
c'est pas la rue qui décide.
Allô.
Demande à Def Jam à quel point je peux être hostile.
Allô.
Demande à Skyrock si Kerry est un rappeur docile. Jab du gauche, crochet du droit, esquive rotative, percutant le foie. Vous vouliez le trône, je me l'octroie. Vous vouliez ma zone, vous aurez le pôle emploi. Tout ce qu'ils font, je sais le faire. Où ils vont, j'y étais hier. Je peux tuer le match sur un corner. Je peux tuer le game sur un coup de nerf. N'importe quoi ce qui me passe par la tête. Je viens du 9-4, je suis pas de la jet set. Je marche au droit, je ne fais pas de courbette. Je fais la bise à des mecs qui finissent aux assiettes. Ah, j'ai la voix du renoi qu'à la rage. On dirait que je rappe un couteau sous la glotte. 20 ans après, je suis toujours aussi frais comme la mafia qu'un frit, j'aurai toujours la cote.
J'ai ton chêne, une prod de fêlée, fêlée. Prod de fêlée, j'ai ton chêne, une prod de fêlée, fêlée. Prod de fêlée, j'ai ton chêne, une prod de fêlée, fêlée. Prod de fêlée, allô, allô.
C'est tout.
Mais pas semblant de pas savoir qui c'est.
Vous êtes toujours à l'écoute de la plus rebelle des radios sur le 102.2, émission Montaigne, Oiseteug, rap, littérature et révolution, avec Baptiste Milondo, l'économiste. Aujourd'hui avec nous, on a parlé de salaire inconditionnel. Et l'émission, voilà, arrive lentement à sa fin. J'ai quand même une dernière petite question quand même avant qu'on se quitte, qui est peut-être, je sais pas, la question de l'internationalisation du processus ou du rapport à ceux qui ne vont pas toucher 1000 euros, parce que j'imagine que les 1000 euros, c'est entre autres lié à la nationalité.
Alors, surtout pas.
Surtout pas.
Alors, dans mon optique, le revenu inconditionnel est versé à tous les résidents. Donc, en gros, je prends le même critère que celui qui est retenu pour être contribuable. Donc, 6 mois de résidence, on a droit au revenu inconditionnel. Souvent, je fais la distinction entre le revenu citoyenneté que je défends et le revenu citoyen que défendait Dominique de Villepin. Mm-hmm. Dominique de Villepin a défendu le temps d'une campagne électorale abrégée, un revenu citoyen, et il disait la condition pour pouvoir bénéficier de ce revenu citoyen, c'est la nationalité.
Ouais.
Alors que moi, je dis la condition pour pouvoir être un citoyen actif, c'est d'avoir un revenu. Donc, on inverse la logique, en fait. Donc, je dis le revenu inconditionnel est la condition d'une citoyenneté effective. Donc, versons un revenu à tous les résidents. Comme ça, ils pourront participer effectivement à la société. C'est ça ma position.
Le prérequis pour obtenir la citoyenneté, enfin pas la citoyenneté, mais le droit de ce revenu inconditionnel, c'est d'avoir déjà un salaire.
Non, ah, non. Je pense que le prérequis pour être un citoyen actif, pour participer à la société, c'est d'avoir un niveau de vie suffisant. Et donc je donne ce niveau de vie suffisant à tous pour que tout le monde ait la possibilité d'être un citoyen actif.
Oui, donc il n'y a rien à faire pour...
Non,
y a besoin
non
de rien
du
faire.
Coup, il ne s'agit pas de dire la nationalité va être la condition de la citoyenneté, il s'agit de dire le revenu va être la condition d'une citoyenneté effective. Donc donnons un revenu à tout le monde, tous les résidents, pour que tout le monde puisse participer à la société.
Oui, c'est une sorte de serpent qui se mord la queue. J'arrive en France, donc voilà, la question qui vient, évidemment, c'est tout le monde va se précipiter en France, vive les 1000 euros, et voilà.
Et non, alors, logiquement, je réponds à cette question en trois temps. Je dis, c'est pas sûr, c'est pas grave, et ça se gère. Sur le c'est pas sûr,
Allons-y. Je dis,
on a des tas d'exemples d'États qui ont mis en place tel ou tel dispositif de protection sociale sans que ça ait entraîné une vague migratoire d'immigrés voulant bénéficier de tel ou tel système. Donc les exemples que je prends...
Les États où il fait très froid.
Oui, alors oui, voilà.
Et où personne ne veut aller. Mais en France, il fait bon.
Ouais, il y a l'Alaska, notamment. Mais alors, sinon, il y a plus près de nous en France, hein, la ville de Besançon, avant l'instauration du RMI, qui a mis en place un revenu minimum garanti, sans contrepartie, sans condition autre qu'une condition de ressources. Et donc il était à un niveau assez élevé, hein, c'était 80% du SMIC. Et on n'a pas vu de vague migratoire à destination de Besançon. Donc c'était à partir de, alors pour le revenu minimum garanti accessible à tous, c'était à partir de 1975, si je me souviens bien. Et donc jusqu'en 1988. Ah non, ça n'existe plus parce que le RMI a été mis en place.
Oui.
Et donc c'était en attendant le RMI. Enfin, on voyait qu'il y avait un trou dans le système, dans le filet de sécurité proposé par la protection sociale, donc il fallait mettre une prestation supplémentaire. Donc là, on n'a pas vu de mouvement de population à destination de Besançon.
D'accord.
Et même au niveau de la France a mis en place le RMI. Le RMI, initialement, jusqu'aux lois Pasqua, était accessible à tous les résidents, en situation régulière, mais à tous les résidents. Donc il n'y avait pas de critère de nationalité. Et pourtant, on n'a pas vu de flux migratoires massifs à destination de la France pour bénéficier du RMI. De la même manière, des prestations comme l'aide médicale d'État, qui existe aujourd'hui en France. Alors la droite dit, attention, il y a des dangereux immigrés qui viennent bénéficier de l'aide médicale d'État et qui, du coup, sont mieux soignés que des Français, etc. etc. En réalité, c'est faux. Il n'y a pas de mouvement massif. La Cour des comptes le montre. Il n'y a pas de mouvement massif de migrants qui viendraient bénéficier de l'aide médicale d'État. Donc en gros, c'est pas parce qu'on met en place un système de protection sociale avantageux que des immigrés se disent « on va aller là ». En gros, on se fait toujours une image de l'immigré qui, enfin, du candidat à l'immigration qui serait derrière son ordinateur en train de comparer chaque système de protection sociale en se disant, ah là, il y a ça, je pourrais bénéficier de ça. Bah, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, c'est pas sûr. Ensuite, c'est pas grave. Parce que, du coup, j'ai tendance à considérer.
Parce que là, vous répondez sur la question des faits, vous dites, effectivement, ça n'arrive pas. Ouais. Mais si ça arrive.
Mais si, voilà. Mais si ça arrive, c'est pas grave. Moi, ma position, encore une fois, c'est tout le monde travaille. Et quand on dit il y a des immigrés qui vont venir, en gros, derrière, il y a l'idée que les immigrés, eux, ils travaillent pas vraiment. Eux, ils contribuent pas vraiment. Du coup, de quel droit est-ce qu'on leur versera un revenu inconditionnel? Et moi, j'ai la faiblesse de penser, en tant que fils d'immigré, que l'immigration, c'est plutôt une bonne chose pour la société. Et que les immigrés contribuent aussi à l'enrichissement collectif. Et donc, du coup, puisqu'ils contribuent à produire le gâteau, ils ont droit aussi à une part du gâteau. Et c'est pas grave, c'est plutôt juste, en fait. Donc ça, c'est pour le « c'est pas grave ». Et puis la dernière partie, c'est « ça se gère ». Pour ce qui est des migrants économiques, les migrants économiques ont, enfin, alors, si on met de côté ceux qui fuient l'impôt, donc les évadés fiscaux, les exilés fiscaux plutôt, les migrants économiques fuient la misère, fuient la pauvreté. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que c'est une émigration choisie ou est-ce que c'est une émigration subie? Est-ce qu'on quitte volontairement son pays, alors dans les conditions qu'on connaît pour ceux qui viennent d'Afrique par exemple, est-ce qu'on fuit volontairement son pays ou est-ce qu'on préférerait rester dans son pays avec ses proches, avec sa famille, avec tout ce qu'on connaît depuis la naissance, plutôt que de partir dans un autre pays où on sera pas bien accueilli, etc. Je pense que la plupart des migrants préféraient rester dans leur pays, dans leur société, etc. Et il se trouve que nous ne sommes pas étrangers à la situation qui les conduit à vouloir quitter leur pays. Donc peut-être que, c'est encore une question que le revenu inconditionnel a mérite de poser, peut-être qu'il faudrait agir sur les conditions de départ plutôt que se dire « ah là là, mais les gens vont venir ». Bah, arrêtons de les inciter à partir, de les obliger à partir, de les forcer à partir avec notre politique étrangère.
Il y a peut-être un point sur lequel je ne suis pas tout à fait d'accord. Lorsque vous dites que si on rejette le migrant... en France, c'est parce que, en tant qu'il est considéré comme migrant, on considère qu'il ne participe pas à la production de valeur au sein de notre société. Le deuxième problème aussi, c'est que c'est la question du nombre, tout simplement. Imaginons un afflux massif de migrants. Si on peut partager le gâteau de manière à ce que tout le monde gagne 1000 euros actuellement, c'est parce qu'on a des outils de production qui sont très bons.
Ouais.
Qu'on peut voilà, avoir une productivité énorme pour un minimum de gens.
Ouais.
Et si le maximum, si le nombre de gens s'accroît voilà, de manière énorme, comment ça se passe?
Ouais, mais enfin, en fait, on s'aperçoit, il y a des chiffres hein, là-dessus, il y a des études économiques qui montrent très bien que lorsque la population augmente, notamment la population active augmente du fait de l'immigration, bah, la croissance augmente, hein, enfin, le PIB augmente.
Mmh.
Encore une fois, les immigrés, ils produisent. Donc ils augmentent la taille du gâteau. Généralement, le raisonnement qu'on fait, c'est les immigrés viennent et ils nous volent donc une part de notre gâteau et une part de nos emplois. En réalité, c'est pas ça. Quand il y a des migrants qui arrivent, eh ben ils augmentent la taille du gâteau parce qu'ils ont aussi des besoins supplémentaires, ils ont une production supplémentaire et donc à la fois par leur demande et par leur travail, ils augmentent la taille du gâteau.
Gâteau variable. Et donc, bah, on va terminer aujourd'hui cette émission de Montée une Oise Talk. Ce que j'ai retenu surtout de votre venue, c'est le fait que, pour vous, le revenu inconditionnel, c'est une mesure à mettre en œuvre, etc. Mais c'est aussi un outil un peu herméneutique, hein, pour poser des questions, quoi.
Ouais.
C'est ça qui...
Oui, alors, ce que je dis souvent, moi, c'est... Enfin, j'avoue souvent mon pessimisme par rapport au revenu inconditionnel. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, François Hollande va saisir du revenu inconditionnel et le mettre en place. Et je ne vois pas des hommes ou femmes politiques qui seraient en mesure de le défendre, qui auraient le courage, l'audace de le défendre aujourd'hui. Par contre, l'un des intérêts que je vois au revenu inconditionnel, c'est qu'avant même sa mise en œuvre, il contribue à transformer la société. Il contribue donc à se poser des tas de questions et à inviter à prendre des micro-mesures qui permettront de transformer la société et de changer surtout les mentalités. Rien que se dire, bah finalement, peut-être que tout le monde travaille, tout le monde contribue à l'enrichissement collectif d'une manière ou d'une autre. Ça permet de changer complètement, de sortir complètement des schémas qu'on a aujourd'hui avec les actifs d'un côté, les inactifs de l'autre, les profiteurs, les assistés. Toute la rhétorique de l'assistanat, elle est battue en brèche par cette logique de bah, tout le monde est contributeur, tout le monde contribue. Donc de quel droit est-ce qu'on exclut tel ou tel en fonction de son activité? Rien que se poser cette question du revenu inconditionnel, ça permet de changer nos mentalités.
Ok, ben je pense qu'on a bien compris. Merci à tous pour votre écoute. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle émission de Montaigne Was The Thug. Merci à Monsieur Tabu, merci bien sûr à Monsieur Milondo. Vous pouvez choper le podcast sur le blog Arte Radio de Montaigne Was The Thug. Il existe également un Facebook Montaigne Was The Thug. Ciao, je vous laisse sur un petit son. Allez, je vais vous laisser sur quoi? Je vais vous laisser sur un petit son, pas trop rap pour une fois. Ou alors si, bon, allez si, du gros rap, on va pas changer. La Secret Connection, Moni Moni, c'est bien dans le thème. Bonne semaine à tous, à la semaine prochaine.
Dans peu de centimètres, mais comment s'en tirer sans séquelles et surtout sans mal. La vie c'est cher et de nos jours t'as pas grand chose pour 100 balles. La route est longue, je rêve quand même d'or et de platine, de belles voitures et de blondes à forte poitrine. Monnaie monnaie car y'a trop de gens qu'on manque. On rêve de s'en sortir, remplir les comptes en banque. Y'a trop de belles choses autour de nous qui nous abattent. On est tous des inconnus, on veut tous gratter sans patate. Tous dans l'attente, dans un monde où tout s'achète. L'argent c'est dur à gagner si t'es pas vedette ou athlète.
Je veux pas le nier, regarde par la fenêtre, on compte tous pour la monnaie. Illicite ou honnête, chacun son approche va se piller. Ici on se situe à la tâche, même 10 à la race, à 12 piges, je vis pour vol à la rage. Demande d'où nous provient la rage, on veut le cash, mec. Le truc qui rachète toi et tes flics, mais où tu le caches, merde. C'est la cata, ils veulent nous voir plus baguette. On se gratte comme des crétins, mais ça colle pas à notre caractère. On a la patate, les crocs et les bagages. Au micro, on se propage, balade sur de véritables thèmes. On se propose tel quel, nous, on dégaine d'armes à gueule. On veut la monnaie, monnaie, on sort des couplets de braqueurs.
Y'a ceux qui bossent dur, ceux qui bossent pas et t'en connais. Mais dans ce monde,
on pense tous monnaie, monnaie. Ceux qui trafiquent les petits cailles et puis les gros bonnets. Car en vrai,
on pense tous monnaie, monnaie.
Y'a ceux qui vivent bien et ceux qui au bonheur sont pas abonnés. Mais dans le fond,
on pense tous monnaie, monnaie.
Y'a les comptes en Suisse et les braqueurs de crédit lyonnais. L'argent appelle l'argent, les gens sont odieux quand t'es fauché. La dégaine peut soigner, le regard lointain, l'air effarouché. Sur les pieds j'ai louché, plutôt que me toucher, me gratter le cul. Je me suis dit Mourad faut leur tomber dessus. Et ce sens est suçant courbette, rester digne, fier. Même si pour se préserver faut croiser le fer, je préfère éviter les compromis qui ne sont pas mon avantage. L'appétit grandit comme quand on prend de l'âge. On passe pour des sauvages, on a faim. Sûr qu'on veut notre part du butin avant la fin. Pas avoir à justifier sur nos agissements au poste. Je veux que dans la rue de jolies jeunes filles m'accostent.
Ceux qui bossent dur, ceux qui bossent pas et t'en connais. Mais dans ce monde,
on pense tous monnaie, monnaie. Ceux qui trafiquent les petits cailles et puis les gros bonnets. Car en vrai,
on pense tous monnaie, monnaie.
Y'a ceux qui vivent bien et ceux qui au bonheur ne sont pas abonnés. Mais dans le fond,
on pense tous monnaie, monnaie.
Y'a les comptes en Suisse et les braqueurs de crédit lyonnais. Qu'on a aujourd'hui c'est léger, ça tu le sais déjà. On rêve de peser lourd comme des PDG.
Monnaie, monnaie,
tous les gens sont pour. Nous on veut se plaire sur cette terre et un jour faire son tour. Quel abruti a dit qu'on fait le bonheur avec des clopinettes. Que pour que nos vies roulent on doit se procurer des trottinettes. L'argent c'est essentiel, dur d'en avoir c'est officiel. Nous on serait tous dehors.
mort avec des sacs s'ils tombaient du ciel. Sans pognon, ils veulent qu'on aille où? Y'a ceux qui bossent pas. Soit t'es flic ou soit t'es voyou. J'ai rarement su contrôler les tentations. Chacun son gagne pas, chacun s'épanouit à sa face.
Y'a ceux qui bossent dur, ceux qui bossent pas, et t'en connais. Mais dans ce monde, on pense tous voler, voler.
Ceux qui trafiquent les petits caïds et puis les gros bonnets. Car en vrai,
on pense tous voler, voler.
Y'a ceux qui vivent bien et ceux qui au bonheur ne sont pas abonnés. Mais dans le fond,
on pense tous voler, voler.
Y'a les comptes en Suisse et les braqueurs de crédit lyonnais.
Ouais. Y'a ceux qui bossent dur, ceux qui bossent pas, et t'en connais. Mais dans ce monde,
on pense tous voler, voler.
Ceux qui trafiquent les petits caïds et puis les gros bonnets. Car en vrai,
on pense tous voler, voler. Y'a ceux qui vivent bien et ceux qui au bonheur ne sont pas abonnés. Mais dans le fond,
on pense tous voler, voler.
Y'a les comptes en Suisse et les braqueurs de crédit lyonnais.
On pense tous voler voler.
Jusqu'à Marseille,
on pense tous voler voler.
Dans toutes les banlieues,
on pense tous voler voler.
Et à Besbar,
on pense tous.